reggae.
Ah bah oui, oui.
Bonjour.
Alors, je sais pas comment vous les pensez. Oh, peu importe, c'est ça. Ouais, tout on va se mettre là. Voilà. Moi, je suis.
Non mais c'est quoi? Je pense que c'est.
Mesdames, Messieurs, donc rebonjour. Quelques mots d'introduction pour initier donc cette session dédiée à l'action internationale économique des collectivités territoriales. Alors, je reprends mes notes pour passer d'un sujet à un autre. Alors, on le sait, on l'a vu, vous le savez également, l'action internationale des collectivités territoriales, elle s'incarne, elle se décline sur plein de sujets différents. Mais depuis quelques années, et peut-être encore plus ces toutes dernières années, la question de la part, de la dimension économique dans cette action internationale prend une place grandissante. Et elle prend d'autant plus une place grandissante que la question de la réciprocité constitue un fondement de la légitimité de cette action internationale. Donc, la question qu'on commence à se poser avec force depuis plusieurs mois à Cités Unies France, c'est comment cette coopération internationale d'une collectivité territoriale peut encourager le développement économique ici et là-bas. Donc, poser cette question, ça engage à se pencher, bien sûr, sur les compétences des collectivités, telles qu'elles sont définies aujourd'hui, pour s'appuyer sur des dynamiques qu'elles suscitent à l'échelle territoriale et leur donner une projection internationale. Le rôle des régions est à ce titre, bien sûr, pilote dans la capacité à impulser et coordonner des dynamiques. Mais force est de constater, on l'a vu à Cités Unies France, que les autres niveaux institutionnels étaient tout à fait intéressés pour savoir la façon dont elles pouvaient, elles aussi, décliner, insérer une dimension économique à leur action internationale. Aussi, après y avoir réfléchi au sein du bureau exécutif de Cités Unies France, au sein du conseil d'administration, a-t-on décidé d'initier un groupe de travail, une dynamique thématique sur cette question-là, l'action internationale économique des territoires. Et je laisse tout de suite peut-être le président dire quelques mots de ce qu'on projette comme intention pour ce groupe de travail. Et puis, sans vouloir déflorer le sujet, confier à notre représentante de la région Occitanie, Madame Pelfig, le rôle de présidente de cette dynamique donc naissante. Monsieur le Président, donc je vous laisse la parole.
Merci, chère Virginie. Le développement économique. Ça s'appelle aussi la coopération décentralisée économique, ça s'appelle aussi la diplomatie économique ou l'action internationale économique des collectivités territoriales. Tu l'as évoqué, aujourd'hui, les compétences ont été réparties entre les collectivités territoriales et au premier chef, ce sont les régions aujourd'hui qui portent la compétence économique des territoires. Au premier chef, j'ai dit. Et donc, c'est avec plaisir que je suis assis à côté de Nadia Pelfig, qui est vice-présidente de la région Occitanie, pour lui confier une mission pour 3 ans, celle d'animer, de faire vivre, de créer une nouvelle dynamique thématique, le groupe que nous allons appeler Action internationale économique des collectivités territoriales de CUF. C'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration dans le but, ou qui se donne comme objectif principal, de soutenir et de promouvoir l'action, l'engagement des collectivités territoriales dans le renforcement de la dimension économique de leur action internationale. Elle existe déjà, bien évidemment, mais le but, c'est de la poursuivre, de l'amplifier. Et donc, on pourra ainsi renforcer la reconnaissance de notre rôle qui a été évoqué fort bien tout à l'heure, d'ailleurs, par Claire qui était là et que je... Clara, que je ne vois plus. Mais peu importe, elle est partie aussi boire un verre d'eau et elle nous rejoindra. Et donc, pour 3 ans. Je vais vous confier une lettre de mission qui, en votre qualité de présidente de cette dynamique qui est transversale, vous devrez en priorité, mais je crois que vous le savez, éclairer et outiller le plus possible les collectivités territoriales sur cette question. Vous êtes tout à fait apte à le faire. Vous aurez l'appui, bien évidemment, des équipes techniques de CUF pour cela. Vous pourrez donner des orientations stratégiques et de contenu quant au pilotage de cette dynamique action internationale économique des collectivités. Et puis, il nous faudra, mais à travers vous, bien sûr, faire reconnaître cette action internationale économique comme un levier de réponse aux grands enjeux de développement et ainsi renforcer notre action internationale des collectivités locales, territoriales, j'allais dire, puisque quand on parle des régions, il faut dire territoriales notamment. Donc, bien évidemment, vous aurez l'occasion de nous dire régulièrement comment les choses se précisent, mais je crois que c'est une bonne décision qui a été prise par le conseil d'administration de CUF, car finalement, beaucoup de collectivités aujourd'hui agissent dans le domaine économique sans même pouvoir faire partager ces analyses et les valoriser. Et donc, c'est un nouvel axe d'action et de reconnaissance de l'action des collectivités territoriales dont on a parlé tout à l'heure et qui ont été bien rappelées d'ailleurs aux Nations Unies ces derniers temps. Alors, chère Nadia, voilà la lettre de mission que je vous confie. Mais plus que cette lettre de mission, c'est le plaisir de savoir que vous allez animer ce groupe de travail pendant les prochaines années et nous allons suivre ça tous ensemble. Merci bien.
Merci, Monsieur le Président, cher François. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement à la fois très heureuse d'être ici et je remercie vraiment la CUF de l'organisation une nouvelle fois de ces rencontres et les débats de ce matin. Les échanges de ce matin ont monté par leur grande qualité, la nécessité et la richesse de l'action de nos collectivités sur ce sujet. Je suis aussi très honorée de pouvoir présider ce nouveau groupe de travail. J'ai en région Occitanie pendant 5 ans présidé l'agence de développement économique, a été issue de la fusion de nos 6 anciennes agences entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et était en charge de poser les jalons prévus par la loi NOTRe qui nous conférait cette nouvelle responsabilité en 2015 de l'action économique d'une région. Mais je sais que cette action économique, elle n'est possible que parce que nous avons sur l'ensemble de nos territoires des communes, des intercommunalités, des départements qui sont dynamiques. Il n'y a pas d'action économique sans développement des transports, il n'y a pas d'action économique sans un maillage de nos services publics dans les territoires, tout simplement parce que l'action économique s'installe là aussi, là où il y a des dynamiques, là où il y a des attractivités, et là où les attractivités ne sont pas naturelles, il y a le rôle de la puissance publique pour les générer et pour faire en sorte qu'aucun de nos territoires n'échappe aux différentes dynamiques. Et donc, bien évidemment, le sujet de l'action internationale sur la sphère économique est apparu avec encore plus d'acuité ces dernières années. Lorsqu'on a été confronté au Covid et même avant, il y a eu tout un mouvement nécessaire sur les questions de relocalisation, de réindustrialisation. Et cela, ça se fait dans les territoires. Ça ne se fait pas que sur la simple volonté du pouvoir central ou à Paris. Ça se fait parce que dans nos territoires, nous avons des viviers en matière de compétences, parce que nous accueillons des universités, des établissements d'enseignement supérieur, de recherche, parce que nous avons des centres et métiers de qualification qui forment les apprentis, les élèves, les collaborateurs et compagnons de demain, parce que nous avons dans nos territoires des possibilité de fournir de l'énergie en grande quantité quand nous avons des industries et des besoins qui s'expriment, parce que nous avons des relations en tant qu'élus locaux avec les opérateurs, les fournisseurs que nous obtenons aussi dans les conventions avec les concessionnaires d'énergie, des raccordements plus actifs et plus rapides aux énergies renouvelables, et nous savons que c'est là un enjeu. Bref, pour plein de raisons. Nous voyons depuis des années qu'il n'y aura pas de progrès en matière de développement économique, d'attractivité de nos territoires ou de co-développement de nos territoires avec d'autres pays partenaires si les collectivités territoriales ne s'en mêlaient pas. Et je crois que nous avons ici des très beaux exemples de ce qui a pu être réalisé en région Occitanie, mais j'aurai la possibilité d'y revenir. On essaie de s'appuyer sur des événements, et l'événement actuel, c'est la Coupe du Monde de rugby, pour aussi mettre en place de la diplomatie économique. Nous accueillons par exemple le camp de base de l'équipe du Japon, et il se fait que nous avons développé depuis plusieurs années des relations étroites avec le Japon. Il y a le groupe pays que je salue, Japon, à la CUF, et c'est parce que nous avons développé ces relations à l'occasion des Jeux Olympiques, à l'occasion de la Coupe du Monde, des préparatifs, que nous avons pu, par exemple, offrir une base de plateforme logistique à la marque ASICS, qui est venue donc s'installer à Mogio, à côté de Montpellier, que nous pouvons installer du matériel médical avec la marque Oriba, que nous travaillons avec ceux qui fournissent le parfum à la Cité Impériale et qui sont aussi installés chez nous. Bref, toutes ces relations... elles se font parce que nous lions l'ensemble des sphères de l'action territoriale, que ce soit la culture, que ce soit le sport, et ça passe aussi par l'action économique, parce que ce sont aussi des budgets, parfois privés, qui soutiennent l'ensemble des actions que nous mettons en œuvre. Alors moi, ce groupe de travail et cette responsabilité que me donne le président aujourd'hui, et puis je remercie aussi l'ensemble des administrateurs et administratrices d'avoir accompagné cette proposition, c'est... finalement, dans l'objectif de nous donner des modalités, des appuis communs, comme on le fait toujours au sein de Cités Unies France, de pouvoir faire en sorte que les contacts qui sont les nôtres, nous pouvons les partager avec d'autres collègues. Dans notre région, on a, comme dans d'autres territoires, monté la team Occitanie France Export. Ce sont des contacts privilégiés avec Business France dont on peut trouver les bureaux et qui doivent aussi être des appuis avec l'ensemble des collectivités partenaires du territoire. Ce sont les contacts dans le domaine économique qui peuvent se traduire aussi par la sphère universitaire et de recherche, notamment avec la mise en œuvre de laboratoires communs de recherche avec des entreprises. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir des industriels de premier niveau, de type multinational ETI, mais aussi des PME dans nos territoires qui irriguent et qui peuvent agir en matière de développement. Ce sont aussi des actions d'accompagnement du développement de territoires comme le Sénégal ou la Palestine pour la région Occitanie. Et je crois que l'actualité encore de ces dernières semaines montre la nécessité que pour avoir un développement harmonieux sur la planète, nous puissions accompagner tout le monde sur la planète. Les drames qui s'occupent à Lampedusa ne trouveront pas de réponse simplement dans les politiques nationales ou les politiques qui finalement ne permettent pas d'offrir une vie meilleure, et c'est ce à quoi aspire l'ensemble des personnes qui se déplacent et qui va être amplifié par les phénomènes climatiques les prochaines années. Donc nous avons toutes et tous, au-delà des valeurs qui nourrissent les membres et les adhérents de Cité Unie France, de trouver des solutions de manière très concrète en s'appuyant sur la richesse de nos territoires, sur les liens extrêmement étroits et intimes qu'on peut lier avec les acteurs économiques de nos territoires pour pouvoir aller vers un meilleur développement, valoriser nos compétences, l'attractivité des territoires ici, mais aussi là-bas. Donc vraiment un grand merci. Hâte de pouvoir travailler davantage avec vous, souligner pour mes collègues d'Occitanie que je suis très contente que nous soyons aussi bien représentés ici. Je vois Jean-Claude Dardelet, vice-président de la métropole, tout à l'heure Claire Hart, vice-présidente de la métropole de Toulouse, Claire Hart, vice-présidente de la métropole de Montpellier, que vous connaissez bien, mais également l'adjoint Castelnau-Lelay que j'ai vu, et puis plusieurs collègues qui sont présents. Mais je dois rassurer tout le monde, l'Occitanie, c'est un pays qui met haut la convivencia, comme on dit chez nous, et donc bien évidemment, plus on sera nombreux de l'ensemble des territoires, plus on donnera une image favorable de notre pays et de l'action dynamique de Cités Unies France. Donc, merci, Président. Et puis, hâte de travailler ensemble. Mais avant, l'exemple, justement, de ce que peuvent faire d'extrêmement riches les collectivités déjà et ce qu'on peut d'ores et déjà mettre dans le pot commun de l'action économique des collectivités territoriales au niveau international. Donc, je ne sais pas qui commence.
Oui, déjà, un grand merci, Madame Pelfig, d'accepter de prendre la présidence de cette dynamique, de ce groupe qui se constitue, donc, de travail. Je crois qu'on a brossé les grandes ambitions de ce groupe, mais là, dans votre mot d'introduction, vous glissez déjà des pistes, à savoir simplement prendre connaissance de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ces questions. Il y en a beaucoup. prendre connaissance aussi de l'ensemble des modalités qui peuvent exister de travail, parce qu'il y en a plein. Il y a un petit moment, alors on n'a pas pu le mettre en place exactement, mais un des sujets qu'on s'était dit que nous pouvions aborder pour parler de développement économique de façon assez concrète, et ce n'est pas mon voisin, mon président qui dira le contraire, c'est interroger la façon dont, sur par exemple les questions de gastronomie ou de vin, en matière de développement économique, les collectivités territoriales françaises peuvent s'impliquer et avoir une diplomatie économique tout à fait intéressante. Bon, en fait, il y a plein de façons de décliner cette question-là. Il y a plein de réponses apportées par les collectivités et il y a surtout une grande faim de la part des collectivités de savoir, de connaître justement la façon dont ça peut, cette question-là peut être envisagée. Et évidemment, la session d'aujourd'hui se veut une introduction à toutes ces questions-là, mais il nous faudra l'approfondir dans le cadre des réflexions que nous aurons au sein de cette dynamique transversale. En attendant de se lancer sur ces questions-là dans le cadre de notre dynamique de groupe, eh bien, on a proposé à trois témoins, que je remercie vivement, de partager la façon dont, quand on leur disait Action internationale des collectivités et développement économique, dont ils faisaient le lien, comment ça se traduisait pour eux en tant que collectivité territoriale. Et je les remercie de prendre part à cet échange. On va commencer par le témoignage de Régis Besse pour la ville de Clermont-Ferrand. Alors déjà, je tiens à dire qu'il a accepté in extremis de participer à cette session suite à un désistement, et je l'en remercie. Mais je trouvais ce témoignage tout à fait intéressant, puisque la ville de Clermont-Ferrand n'est pas une ville capitale, n'est pas non plus une ville capitale de région également. Donc on n'est pas sur une très grosse collectivité, même si on est déjà sur une collectivité de taille importante. Et vous avez, avec notamment le réseau des villes Michelin, une implication internationale et économique. Et je voulais vous poser la question, effectivement, de voir quel lien vous faites entre action internationale, action économique, comment ce réseau irrigue vos relations internationales, ou pas, ou comment vous envisagez, là, dans les années à venir, le lien entre action internationale de la ville de Clermont-Ferrand et développement économique.
Merci, Monsieur le Président, Madame, Mesdames, Messieurs. Oui, pour évoquer effectivement le réseau international des villes Michelin et la dimension économique, il faut rappeler un petit peu quelle était l'origine en fait de ce dispositif. Il est encore récent puisqu'il a été créé à l'initiative du maire Olivier Bianchi, maire et président de la métropole, annoncé en 2014, effectivement, sur un constat assez incontournable à Clermont-Ferrand. Nous avons une société mondiale, la société Michelin, c'est aujourd'hui se déploie sur tous les continents, et effectivement constituer un fil conducteur dans cette perspective de collaboration internationale. Alors on a effectivement l'objectif politique était clairement d'élargir les perspectives de coopération internationale. Clermont-Ferrand, comme notre ville, effectivement, vivait sur un substrat de jumelage, de relations riches, actives, parfois moins, etc. Et l'idée, en 2014, en tout cas lors de ce nouveau mandat, était vraiment d'imprimer une nouvelle impulsion en termes de coopération internationale, d'élargir les coopérations, les pays, et avec une stratégie aussi d'ensemble, puisque vous savez que la ville de Clermont et la métropole sont candidats à capitale européenne de la culture. Donc l'objectif était évidemment aussi de densifier en quelque sorte ce réseau de coopération à l'échelle européenne et internationale. Donc ce travail, il était initié à partir de 2014 avec le soutien bienveillant de la société Michelin, qui nous a permis de nouer toute une série de contacts avec des collectivités potentiellement partenaires, de tester leur intérêt pour cette proposition, en quelque sorte, de réfléchir un petit peu ensemble à un modèle de coopération qui s'est en fait concrétisé en 2017, puisque nous avons eu en 2017 à Clermont-Ferrand, en fait, qui était le premier acte fondateur de ce réseau, avec 150 participants, 20 pays représentés, 44 villes, nouvelle en quelque sorte, qui découvraient là pour la première fois et qui ont pu échanger sur un certain nombre de perspectives communes. L'objectif était vraiment pour la ville d'ouvrir un champ nouveau de coopération sur des politiques publiques multiples. Donc la question, l'entrée, je dirais, économique n'était pas centrale, unique. C'est un dispositif plus transversal, plus large. Et donc nous avions, en 2017, avait été identifié effectivement toute une série de thématiques, de sujets comme le développement durable, qui est évidemment déjà au cœur des préoccupations, les enjeux de mobilité, les enjeux de culture, la question de la recherche, des universités. Tous ces segments-là ont été identifiés comme, j'irais, porteurs, et en tout cas, devaient ouvrir sur des perspectives de travail. Alors, le 2017, effectivement, l'objectif, c'était, voilà, première pierre, mais structurer un réseau, de faire vivre. Et donc, c'est en 2019, à Victoria Gasteiz, en Espagne, qu'a été créée véritablement l'instance de gouvernance du réseau, avec un comité exécutif composé de maires, et j'irais poser véritablement une méthodologie de travail, puisque l'idée, c'était pas d'avoir... je dirais autour de ces thématiques une approche systémique en tant que telle, mais plutôt de proposer aux villes de s'inscrire dans des démarches collaboratives, mais sur des thématiques qu'elles choisissaient en fonction de leurs priorités. Donc on a commencé à travailler de cette façon-là. Donc 2019, 2020, évidemment, la crise sanitaire arrive, remet potentiellement en question cette collaboration, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, cette période de crise mondiale a généré les mêmes questions, je dirais, dans la plupart des pays. Et on a pu activer, sur cette période, 2020-2021, jusqu'à début 2022, maintenir en tout cas un niveau d'échange intéressant. Les rencontres, l'idée du comité exécutif était quand même de scander ce réseau par des rencontres régulières qui permettent aussi d'apprécier l'avancement des travaux, de créer des contacts aussi entre les élus qui ne se connaissaient pas et de créer une forme de synergie. Donc, début 2022, troisième rencontre au Mexique à Querétaro, qui sont là centrées, évidemment, dans une période post-Covid immédiate sur des enjeux de développement durable avec une charte qui est adoptée de façon unanime par toutes les villes. Sur un certain nombre d'engagements et qui permettaient de redynamiser le réseau. Alors, la question économique, pour en venir effectivement au sujet de la table ronde, je dirais qu'elle arrive véritablement maintenant, dans la mesure où on a vraiment une impulsion qui est là, qui est repartie. Et à travers, effectivement, les prochaines rencontres de ce réseau qui se dérouleront à Anderson, en Caroline du Sud, en avril 2024, où là, notre partenaire, le comté d'Anderson, la ville d'Anderson, a souhaité mettre la question économique au cœur, en fait, du sujet. C'est assez logique, je dirais, par rapport à cet état, notamment, puisque vous savez, la Caroline du Sud a vu un processus de reconversion industrielle très fort dans les années 70. C'est aujourd'hui un des bassins industriels prépondérant autour de l'automobile. La société Michelin a son siège nord-américain à Greenville, qui est dans le comté d'Anderson. Et donc la question économique est apparue comme centrale à travailler dans cette perspective-là. Donc elle va être abordée à travers le lab qui a été mis en place. Une dizaine de villes sont aujourd'hui, je dirais, actives dans ce laboratoire pour faire en sorte notamment que dans le cadre des prochaines rencontres, un certain nombre d'entreprises, de start-up soient présentes sur cette filière, j'irais, de l'automobile et des mobilités, pour que chaque commune, chaque ville, en quelque sorte, puisse faire valoir un certain nombre de propositions qui seront à ce moment-là présentées à Anderson. Et puis, le laboratoire a souhaité effectivement travailler dans une prospective, dans une vision un peu plus prospective de ces questions-là, avec faire en sorte que le réseau soit finalement à l'initiative de deux choses. D'abord, un véritable incubateur à l'échelle du réseau pour mettre en avant l'innovation technologique et donc créer en quelque sorte un concours de start-up qui va permettre un petit peu à l'échelle de ce réseau d'identifier de, par un appel à candidature un certain nombre d'initiatives qui vont être encouragées et accompagnées par le réseau et par des moyens. Le troisième volet de cette, cette dimension économique, effectivement, on la doit en fait à une ville membre du réseau qui est Magog au Canada et qui a imprimé l'idée d'un corridor des incubateurs, c'est-à-dire un principe d'échange. Vous parliez de réciprocité, mais effectivement des villes qui seraient partenaires en quelque sorte pour accueillir au cœur de leur territoire des jeunes entreprises innovantes, etc., et les mettre en relation avec effectivement des marchés potentiels et les accompagner dans le processus. Donc l'idée là, je pense que c'est intéressant parce que rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire vraiment l'idée d'une contractualisation. Anderson, notamment en avril, doit permettre aujourd'hui 10 villes partenaires de ce dispositif de contractualiser, c'est-à-dire vraiment sur des enjeux d'accueil, d'accompagnement et vraiment une réciprocité, et qu'on puisse construire un peu ce processus sur la durée, puisque c'était aussi une difficulté qu'on pouvait rencontrer, c'est-à-dire de pouvoir inscrire des processus quand même sur des temps un peu plus longs. C'est parfois une difficulté à l'échelle de la coopération internationale, mais c'est tout l'objet de ce travail-là, de pouvoir effectivement le projeter un petit peu sur la durée à travers un engagement qui sera là, en tout cas pour l'instant au niveau des 10 villes actives dans ce laboratoire, une réalité à partir d'avril 2024. Voilà un petit peu les logiques hein, qui sont en œuvre, encore une fois, sur ce réseau international des villes Michelin. C'est une des logiques, je l'ai dit, parce qu'effectivement, on a un certain nombre de projets qui se déploient dans d'autres dimensions, qui sont aussi très importants. Je pense, par exemple, sur la question, on parlait de la question de la mobilité des jeunesses, de la recherche. Nous avons d'autres villes, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément les mêmes, qui sont, elles, par exemple, très impliquées sur ces questions de circulation, et la mobilité de jeunes artistes d'ailleurs, puisque ce réseau par exemple a une ouverture sur les questions de mobilité artistique, un peu d'ailleurs avec en symétrie sur cet incubateur, avec la possibilité dans une forme de réciprocité d'accueillir des artistes sur ces différents territoires. Voilà la logique qui est en œuvre à travers le RIVM. Et la dimension économique qui est aujourd'hui vraiment dans un processus de construction au sein de ces réseaux.
Merci beaucoup, témoignage que je trouve très riche, très intéressant, comment à partir d'une identité locale, d'une entreprise et d'une identité économique locale, on a une projection internationale et qui va bien au-delà de... finalement, le sujet précis Michelin, puisque vous parlez de culture, vous parlez de plein d'autres champs, et je trouve aussi intéressant cette remarque, comme quoi finalement, en partant de sujets économiques, de sujets de business, d'entreprise, eh bien, on arrive à ouvrir la focale sur plein d'autres sujets. Je crois qu'il y a François Rebsamen, en tant que maire de Dijon, aurait aussi beaucoup de choses à dire concernant un réseau, concernant un autre produit, mais je le laisse en dire quelques mots parce que je crois que c'était aussi inspirant d'entendre ce qu'a dit le représentant de la ville de Clermont-Ferrand. Donc François, je te laisse.
Oui, merci. Vous écoutant, je me disais, on a quand même une richesse dans nos collectivités territoriales. D'abord, bien sûr, les régions, ensuite les métropoles, et Clermont est une des 22 métropoles françaises, bien évidemment, et on a des atouts qui sont liés à nos propres territoires. À nous, ensuite, de les faire valoriser à l'international, ça fait partie de ce que tu appelais, Nadia, l'attractivité d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, je voulais prendre deux exemples, un tout petit exemple, mais qui montre que l'action économique peut des fois venir de rencontres, évidemment, entre élus, toujours au départ entre élus. Et donc, il s'agit d'élus hein, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Le territoire de notre région Bourgogne, c'est beaucoup quand même, bien sûr, par-delà la santé, etc. Je ne veux pas faire tout ça, rappeler tout ça, mais c'est l'agroalimentaire. Et donc, nous avons un élu qui... aujourd'hui est président des maires ruraux, qui s'est lié d'amitié avec un maire d'Arménie. C'est une petite histoire. Sauf qu'il s'est aperçu que en Arménie, ce maire se plaignait parce qu'il ne savait pas quoi faire du lait qu'il produisait, il le jetait. Il jetait le lait. Et donc, il a eu l'idée d'amener avec lui, on le soutient, on l'accompagne, bien évidemment, nous aussi, au niveau de la métropole. C'est, les maires ruraux, ce n'est pas toujours beaucoup de moyens, mais c'est beaucoup de volonté. Avec une entreprise locale de Dijon, qui est très connue, qui fait du fromage, fromagerie Delain, eh bien, il travaille maintenant à la transformation du lait en fromage en Arménie. C'est un petit sujet, mais ça m'amène à un autre sujet qui est un peu plus vaste, qui touche plus de monde dans le monde entier. Je veux parler de la gastronomie et du vin. On a obtenu de longues luttes contre d'autres villes de vin, Bordeaux, Reims, je ne les citerai pas toutes, et le centre-val de Loire va m'en vouloir, bien évidemment. Je vois l'adjoint au maire d'Angers qui, pendant que je me fais piquer, je vois l'adjoint au maire d'Angers qui hoche la tête. Il aura l'occasion de nous démontrer ses produits. Donc on a obtenu l'installation de l'Organisation internationale de la vigne et du vin à Dijon. Mais c'est une organisation internationale qui est composée de 50 pays. Quand elle est à Paris, ça n'intéresse personne. Parce que c'est une des organisations, en plus, comme il y en a plein à Paris, qui sont là et qui servent surtout à faire connaître entre eux les ambassadeurs, etc. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Depuis qu'ils sont implantés à Dijon, ils ont une action extérieure que nous accompagnons bien évidemment. Et cette action extérieure me donne... Alors, l'économie du vin, c'est quelque chose de très important. La région Bourgogne, elle est exportatrice, beaucoup plus qu'importatrice. Donc, elle a une balance des paiements qui est beaucoup plus avantageuse parce qu'elle a le vin, évidemment. Elle exporte tout son vin en Angleterre, aux États-Unis, en Asie et aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc, profitant de l'installation de cette Organisation internationale du vin qui fait son congrès mondial chaque année au Mexique, l'année prochaine à Dijon, à Jerez de la Frontera en Espagne, etc. J'allais en profiter, et je le ferai, puis je t'inviterai, parce qu'on pourra voir tout ça, de lancer l'association des villes de vin dans le monde. Et avec cette association, on pourra, bien évidemment, le vin, c'est une culture. Ce n'est pas uniquement un produit de consommation, c'est toute une histoire, une culture. On va pouvoir développer des relations économiques avec d'autres territoires qui sont plus l'action des collectivités territoriales que l'action des pays eux-mêmes. Parce que c'est les collectivités territoriales, c'est sur le territoire des collectivités territoriales qu'on plante, qu'on cultive et qu'on vendange, bien sûr, ces vignes et ces vins. Et donc, nous aurons l'occasion, je regarde Bertrand Faure parce qu'on en a déjà parlé, cette idée. D'abord, on a plaisir à inviter la présidente du groupe et qui anime ça. Et puis, d'autre part, de montrer que par l'action économique des collectivités territoriales sur des domaines très variés, on va pouvoir créer une nouvelle reconnaissance de notre action, autre que celle qui est traditionnellement connue, c'est-à-dire le jumelage, le soutien, etc. Là, on va avoir un véritable impact et je pense que ça aura à terme beaucoup de retombées pour les uns et pour les autres, et puis que ça créera des liens d'amitié, de fraternité, parce que ça a été bien dit par le président de la métropole de Nîmes ce matin, ça compte l'humain dans les relations. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Enfin, en invitant CUF l'année prochaine pour le Congrès mondial du vin.
Merci François. Je pense que ça fait effectivement écho à cet autre réseau, donc deux réseaux autour d'un sujet économique et qui contribue à l'attractivité du territoire. On est en plein dans les sujets qu'on aura à balayer dans le cadre de ce groupe de travail. On va passer à un autre sujet avec des questions d'économie sociale et solidaire, puisque ce sujet-là aussi, on peut le rattacher directement aux questions de développement économique, d'action internationale des collectivités en matière économique. On a avec nous la chance d'avoir Aude Saldana, secrétaire générale du Global Social Economy Forum. qui va nous présenter donc déjà en quelques mots ce qu'est ce Global Social Economy Forum, mais également le rôle que les gouvernements locaux peuvent avoir en matière de transition sociale et environnementale sur leur territoire et dans leur coopération. Et elle prendra appui, mais je la laisserai en dire davantage, sur les actions de Bordeaux et de Bordeaux Métropole pour comme support de son intervention. Donc, je me permets. Ah ben voilà, ça a été corrigé tout à l'heure. Il y avait une petite coquille, mais ça a été corrigé. Aude, je vous laisse la parole.
Je vous remercie de nous donner l'opportunité de présenter le GSF. Je ne viens pas défendre le vignoble bordelais. Hein. Je suis bourguignonne, donc bordelaise d'adoption. Mais voilà, mon cœur pour le vin reste au Bourgogne. Ceci étant dit, le GSF, et je vais parler d'une notion qui n'a pas été. J'ai pas entendu le mot une seule fois et je suis un peu étonnée quand on parle des grands enjeux et comment on répond aux grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. L'économie sociale et solidaire a été reconnue vraiment depuis 2021, 2022 et 2023 par les grandes instances internationales comme un outil clé au service du développement durable. Et c'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Alors, pour le GSF, on est une organisation mondiale de gouvernements locaux et de réseaux de l'économie sociale et solidaire qui a été créé en 2013 à Séoul, mais par des villes, que ce soit la ville de Bilbao, de Mondragon, ville de Montréal, de Séoul, qui se sont réunis en disant vraiment, on a besoin, il n'y a pas de réseau international de l'économie sociale et solidaire porté par les gouvernements locaux. Et nos membres, alors on est présent dans 37 pays qui sont, on a une logique d'organisation continentale, mais nos gouvernements locaux et les réseaux de l'ESS représentent toutes les formes de l'économie sociale et solidaire que sont les entreprises sociales, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les collectivités et les groupes d'entraide. Et donc, la caractéristique de notre réseau et de tous les membres de notre réseau, on parlait de plaidoyer tout à l'heure, mais on est encore beaucoup dans le plaidoyer, on place et nos gouvernements locaux sont convaincus et militent pour que l'économie sociale et solidaire soit reconnue, car elle place avant tout l'individu avant les profits et font la démonstration d'une économie collective, viable et innovante. Et vraiment, je le disais il y a quelques minutes, l'Europe, en décembre 2021, donc la Commission européenne a voté un plan d'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne. Il y a une recommandation politique qui est en train d'être votée. C'est parce que l'économie sociale et solidaire représente plus de 10% des emplois en Europe déjà et est présente dans tous les secteurs de l'économie. Pourquoi l'Union européenne, l'OIT l'année dernière et l'OCDE ont donné des définitions vraiment à l'économie sociale et solidaire qui ont encore été reprises par l'Assemblée générale des Nations unies qui a voté le 18 avril 2023 une résolution. Donc voté par l'ensemble adopté par l'ensemble des pays membres des Nations Unies, reconnaissant l'économie sociale et solidaire comme l'économie qui permettra d'atteindre l'agenda 2030 et d'atteinte des objectifs de développement durable. Donc effectivement, on parle souvent d'économie sociale et solidaire, ça reste flou. Nous, on a beaucoup dans nos missions, dans des missions de long terme et la co-organisation avec nos membres d'un forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui sera organisé d'ailleurs à Bordeaux en 2025. Donc, on vous invite tous à y participer. C'est la ville de Bordeaux qui a été élue par notre organisation. En Assemblée générale pour organiser ce prochain forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi on parle de Bordeaux ? Je ne l'ai pas dit tout de suite et j'aurais dû commencer par ça. Le forum de l'économie sociale et solidaire, donc le réseau mondial, était porté et était localisé à Séoul. Et en octobre 2021, la mairie de Bordeaux la métropole de Bordeaux, le département de la Gironde et le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine se sont portés candidats à accueillir le forum mondial à Bordeaux, à être et à occuper la présidence du forum mondial. Donc c'était un acte politique fort, mais qui montrait aussi la volonté des collectivités territoriales de se dire pour nous le développement, un développement économique durable sur nos territoires, comme pour nos coopérations internationales, doit être basé sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est des valeurs dont on a beaucoup parlé, hein, les valeurs d'entraide, de solidarité, de pérennisation, de durabilité, et aussi la façon d'envisager nos coopérations internationales qui vont plus être basées sur des relations, on va dire, on va dire, c'est un mot fort, mais j'arrive pas à trouver l'autre mot, de pillage des ressources naturelles ou basé sur aussi l'exploitation des personnes, mais bien parler avec les communautés, avec les collectivités territoriales d'un développement durable qui répond aux besoins des communautés et une économie qui ne sera pas au service de créer des grands profits, mais bien de créer des biens et des services pour les populations sur les territoires. On parlait de la migration tout à l'heure, et on voit bien, nous, dans nos partenariats, dans les préoccupations des gouvernements locaux des pays du Sud, que créer des emplois décents, des emplois durables, de l'emploi collectif qui va répondre aux besoins des populations, c'est la meilleure façon, en fait, de créer du bien-être et d'éviter que des gens partent en exil, où ils ne seront pas heureux dans cet exil et souvent également maltraité. Donc je ne pense pas que ce soit le moment d'apporter une définition de l'économie sociale et solidaire. J'ai un petit peu dit les fondements et les valeurs qui portent à développer, et en tout cas à cette reconnaissance internationale qui, malgré tous les décrets, toutes les résolutions, toutes les recommandations, il faut maintenant mettre en pratique, si elle a été reconnue. Maintenant, il faut des mesures concrètes et des politiques concrètes. Et pour nous et pour le GCF, les gouvernements locaux sont des acteurs clés du changement et de la transformation sociale et environnementale, et sont des acteurs clés justement pour ce développement durable. On le disait tout à l'heure avec les Nations Unies, mais je pense que voilà. Et donc j'invite, alors parmi nos membres, il y a aussi le RTES, et j'ai pas vu s'ils étaient là aujourd'hui, qui est le réseau des territoires engagés dans l'économie sociale, donc le réseau français qui est adhérent au GCF et qui porte beaucoup ces questions. Et je pense que même pour votre groupe de travail que vous allez porter sur le développement économique, je pense que travailler avec le RTES ou même le GCF sur des outils ou comment aborder ces questions, même sensibiliser les élus et les collectivités territoriales. Vraiment, nos deux réseaux sont à votre service pour discuter et avancer sur comment aussi l'innovation sociale peut être au cœur du développement économique porté par la coopération internationale. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup d'avoir adressé ce sujet-là. Il est important et il fait sens pour les collectivités. Comme le disait François Rebsamen tout à l'heure, oui, les compétences économiques sont désormais dévolues aux régions, mais nous avons, avec les départements et le sujet de l'économie sociale et solidaire, aussi un partenaire sur lequel nos actions sur le sujet économique s'ancrent. Et bien souvent, c'est en lien avec les autres collectivités, finalement, les communes et les intercommunalités, parce qu'il est question de liens, de maillage, et il est aussi question démocratique de gestion de l'économie, puisque dans les modèles de l'économie sociale solidaire, il y a aussi des modèles qui peuvent nous interpeller sur la pratique démocratique, sur la manière de décider des stratégies de manière collective. Et c'est souvent finalement des méthodologies, des modalités qu'on emploie aussi dans les schémas d'organisation internationale et coopérative. Donc ça me semble effectivement un outil précieux, sachant que, fort heureusement, l'économie sociale et solidaire s'organise et se structure dans les territoires. Il y a les CRES, par exemple, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, qui travaillent de plus en plus quand même en interaction avec les acteurs économiques dits classiques, comme les consulaires, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers de l'artisanat. Et parfois, certaines d'entre elles développent des secteurs internationaux de l'économie sociale et solidaire qui sont autant de points d'appui pour les collectivités, pour nous, dans les territoires. Et il y a, sur le sujet de la gastronomie et de l'économie sociale et solidaire, aussi des points d'appui importants, puisque dans des denrées qui sont à la fois transformées en France, comme le chocolat, ou très consommées, comme le café, mais dont nos terroirs et nos cépages ne permettent pas la même production que pour le Bourgogne ou pour le Médoc, ou, et je défends aussi les cépages d'Occitanie, ils sont excellents, hein. Nous avons la plus grosse production de vin AOC au monde. Alors bien sûr, la dame bordelaise fait souvent beaucoup autorité, mais je vous assure que si vous veniez sur nos côtes de Collioure, vous découvririez des cépages qui vous permettraient d'y rester plus longtemps. Mais sur ce sujet-là, il y a un nombre de structures dans nos territoires qui s'appuient justement sur des démarches éthiques à l'international, qui travaillent souvent avec des organisations internationales type Oxfam d'ailleurs sur ces sujets, et dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est effectivement un très bel outil à emprunter, et on a bien noté la structure que vous nous indiquiez avec laquelle nous allions pouvoir travailler.
Merci beaucoup. C'est très riche parce que on est au lancement de ce groupe de travail et on voit déjà toutes les pistes que l'on a potentiellement à creuser, et on ouvre des portes qu'on sent bien qu'il faudra retravailler, réinterroger et mettre en dialogue avec des pratiques différentes et des acteurs différents, un de plus effectivement bien noté. Je vous propose qu'on écoute notre dernière intervenante, Lucina Gravière, responsable du service partenariats internationaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, je vous propose qu'on parte effectivement de l'expérience d'une région, une région engagée sur ces questions-là, à la fois très engagée bien sûr sur les questions d'attractivité économique, mais très engagée aussi à l'international. Donc on vous écoute pour savoir comment ce sujet-là est décliné au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci.
Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Madame la Présidente d'un nouveau groupe de travail thématique de CUF, groupe qui nous réjouit énormément à la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque cette thématique est vraiment au cœur de notre activité à l'international, ce que je vais essayer d'illustrer ou à témoigner sur ce sujet. Comme une illustration par rapport aux grands principes que vous avez déjà évoqués tout à l'heure sur le rôle des régions françaises, vous-même et Monsieur le Président de Cités Unies France. Et puis je m'inscris également complètement dans ce qui a été dit par la ville de Clermont-Ferrand au sujet du réseau des villes Michelin. Et également vos propos sur l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont des éléments que nous utilisons ou sur lesquels nous nous appuyons dans notre quotidien. Eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016, dans la pratique, suite à la réforme territoriale, l'union de deux régions, anciennes régions, qui ont réuni très rapidement leurs forces, leurs expériences, leurs traditions de travail à la fois dans le secteur économique et à l'international, en adoptant assez rapidement, dès 2016, l'obligatoire schéma régional de développement économique, de l'internationalisation et de l'innovation. Le jargon est absolument atroce. En abréviation, ça donne le SRDE2SI, qui, dans notre cas, est également très lié à d'autres schémas régionaux, notamment celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le SRESRI, et un autre schéma plus territorial. Notre région s'était engagée à l'international il y a plus de 40 ans, à l'époque où nous n'étions que Auvergne ou que Rhône-Alpes, avec des collaborations soit de type développement, aide au développement, notamment avec le Mali. Donc voilà, ça c'était une relation, une des premières relations de la région Rhône-Alpes à l'époque. À la même époque, nous avons engagé également des relations très étroites avec le Québec sur d'autres thématiques, y compris la francophonie bien entendu, ainsi que le troisième pays vraiment ancien en termes de coopération décentralisée, c'était la Chine avec la municipalité de Shanghai. Ce sont, mis à part le Mali qui est un peu voilà, mis en stand-by pour des raisons que vous connaissez, les deux autres relations perdurent. Elles existent toujours, évidemment, elles ont évolué au fil du temps. Et en particulier avec ce nouveau rôle des régions françaises, celui de leader ou de chef de file du développement économique au niveau territorial, chef de file et non pas le chef tout court, celui qui impose ou qui dirige les autres collectivités. Il n'y a pas de lien hiérarchique, il y a une collaboration qui est évidemment absolument nécessaire. Cette tradition qui s'est transformée au fil du temps et s'est élargie à d'autres pays, d'autres types de partenariats, et qui est arrivée aujourd'hui à cette dimension économique au sens large du terme, incluant également l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons avec le Québec sur cette thématique depuis une bonne dizaine d'années, sinon plus, donc ce n'est pas quelque chose de récent. En nous appuyant justement sur ces schémas régionaux, sur notre tradition de coopération internationale et sur notre fort potentiel économique, sans vouloir frimer, nous sommes une région économiquement très, très développée dans différents secteurs majeurs et d'avenir. Nous sommes notamment la première région industrielle de France en termes d'emploi et souvent la deuxième région en termes de richesse économique, du nombre de brevets déposés, du nombre montants alloués à la recherche et développement, etc., etc. Donc ces évolutions au fil du temps allant vers l'économie dans nos relations à l'international ne sont pas uniquement le fait de notre volonté unilatérale de la région puissante économiquement, région Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est le résultat des concertations, des volontés croisées, partagées, tout d'abord avec nos partenaires étrangers. Et on a observé au fil du temps qu'au-delà des pays qui sont très portés sur les relations économiques, comme les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée, Israël, etc., aussi les pays du Maghreb et l'Afrique subsaharienne aujourd'hui réclament plus de collaboration à caractère économique. Il ne s'agit pas des relations d'exploitation hein, des uns par les autres, hein, évidemment, mais cette composante économique, elle arrive et elle est exprimée par nos partenaires. Nous sommes prêts, nous sommes tout à fait dans cette démarche, mais c'est complètement partagé avec les partenaires. Et puis, dans notre région, on fait pas cavalier seul, loin de là, on est vraiment dans les collaborations à géométrie variable, avec notamment notre forte implication dans ce qu'on appelle la Team France Export au niveau régional, des Team France Export lancées par le niveau national, par le gouvernement Business France, se déclinent dans chaque région française, en tout cas chez nous. Ça s'est fait très rapidement, pas toujours très facilement, évidemment, il faut faire travailler différents organismes et structures dans la même direction, ce n'est jamais évident, mais ça s'est plutôt bien, voire très bien passé, et donc la région, aux côtés de Business France au niveau régional, Chambre de commerce industrie régionale, BPI France et notre agence de développement économique régional Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous constituons un socle de cette Team France Export pour faciliter toutes les démarches économiques en aide, en appui aux entreprises à l'international. Nous nous appuyons également fortement sur les pôles de compétitivité et clusters qui sont en nombre de 24, je crois, dans notre région. Ces pôles de compétitivité et clusters ont leur propre politique de développement à l'international et ces politiques sont appuyées par notre région financièrement, qui contribue à des missions collectives d'entreprises dans tel ou tel pays du monde qui est jugé opportun pour tel ou tel secteur de notre région. Nous nous appuyons également sur les universités, sur les centres de formation, sur les laboratoires de recherche qui sont également des vecteurs très puissants de travail à l'international, pas uniquement ou pas particulièrement sur le volet économique, mais si on prend justement le concept de pôle de compétitivité, là c'est des regroupements d'institutions publiques, de l'économie, du secteur économique, entreprises, mais également la recherche et les centres de formation. Donc tous ces acteurs contribuent au même effort d'appui à nos acteurs régionaux à l'international. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne se fait pas plaisir individuellement de s'afficher à l'international, mais c'est toujours en appui et en soutien à nos acteurs qui, eux, ont besoin de se développer, de créer des partenariats business ou des partenariats technologiques, des partenariats d'échange de pratiques et de bonnes expériences. Donc voilà, ça c'est l'appui que la région peut apporter à ce secteur économique et tous les autres acteurs autour. Et puis il y a l'autre volet qui est indissociable, c'est l'attractivité. L'attractivité qui passe par tout, de notre territoire à l'international, qui passe par tous les ressorts aussi. Ça a été mentionné tout à l'heure, la gastronomie et les vins en font partie. Notre région fait partie de ce qu'on appelle la vallée de la gastronomie qui réunit Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA et qui permet de valoriser justement notre région sur le plan gastronomique, viticole, touristique, et tous ces secteurs, ce sont également des secteurs économiques. Ce n'est pas quelque chose d'imaginer, mais tout à fait concret. Idem la culture, le tourisme, toutes les opérations de promotion de nos acteurs culturels, des opérations de promotion organisées par notre agence régionale du tourisme à l'international, tout cela contribue à la notoriété, à la valorisation, à la promotion, à l'attractivité de notre région, et ceci permet aussi de, d'attirer des partenaires étrangers et de créer cette, ces échanges permanents et dans les deux sens qui sont bénéfiques, qui doivent être bénéfiques aux deux parties. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup pour ce témoignage sur l'action d'une région en matière de, d'international et en question en matière d'accompagnement économique et d'attractivité, puisque les deux sont éminemment liés. Merci aussi de nous rappeler cette pluralité d'acteurs avec lesquels il faut travailler pour être efficace, impactant et renforcer bien sûr l'attractivité de la collectivité. Il est 13h, mais je voulais proposer à la présidente, si elle souhaite réagir, si vous voulez apporter un regard par rapport à ce qui a été dit, aussi un regard d'Occitanie, je vous en prie. Et puis, si on a 5 minutes, si tout le monde veut bien prendre 5 minutes de plus sur sa pause déjeuner, eh bien, je propose quand même qu'on se retourne vers la salle pour voir s'il y a une ou deux questions. Mais d'abord, je vous en prie, Madame Pialfix, si vous vouliez ajouter quelque chose, notamment au regard de la région Occitanie.
J'aurais plein de choses à ajouter pour la région Occitanie, mais je trouverais bien, si vous en êtes d'accord, qu'on propose à la salle, peut-être qu'il y a des femmes et des hommes dans la salle qui souhaiteraient prendre la parole, auquel cas vous levez la main, et nous avons un micro qui accourra vers vous dans ce laps de temps. Du coup, oui, vous avez ? Super. N'hésitez pas à vous présenter au tout début de votre intervention.
Oui, bonjour, Christophe Mestre du CIEDEL à Lyon. Il me semble qu'il serait important, alors ça a été fait un peu sur l'exemple du réseau des villes Michelin, mais d'approfondir comment ces politiques d'attractivité dans le cadre de la coopération décentralisée sont mutuelles, et d'avoir la parole des collectivités des pays partenaires sur comment il est possible de rentrer, confère ce qui a été discuté ce matin en plénière sur les ODD, comment il est possible effectivement de faire rentrer cette attractivité dans une démarche de réciprocité entre les collectivités territoriales. Merci.
Merci, oui, c'est très juste. Par exemple, dans les relations économiques, d'action économique qu'on peut avoir avec le Cambodge, il y a, par exemple, un peu comme l'exemple que donnait François Rebsamen, on a mis en œuvre un atelier de transformation d'aliments pour le bétail avec la Sodia et développé une offre de formation des agriculteurs entre nos écoles d'ingénieurs sur le territoire occitan, qui du coup apprenaient aussi de nouvelles techniques et qui permettaient aux agriculteurs au Cambodge de spécialiser pour la sélection d'espèces porcines et bovines et améliorer ainsi le bétail. De la même manière au Maroc, et ça sera intéressant aussi d'avoir les autorités des pays partenaires pour en témoigner, on a un travail qui s'est engagé sur les performances dans la région de Casablanca et de Settat sur la valorisation des produits du terroir et des produits de qualité. Et cette problématique d'identité de nos territoires, elle existe dans l'ensemble de nos territoires en France, mais elle existe aussi dans les pays partenaires avec lesquels on travaille. Et la valorisation d'une marque à l'international, d'un produit très identitaire dans le sens gastronomique, ça répond aussi à des ressorts qui sont communs à l'ensemble des territoires, sur la manière dont on peut véhiculer une marque, lui donner de la visibilité et donc créer un engouement autour d'elle et donc de générer des dynamiques économiques et d'emploi. Et donc, voir ensemble quelles sont les compétences qui sont à réunir, comment on peut la faire émerger sur le plan international, c'est des sujets, me semble-t-il, qui peuvent nourrir ce que vous avez indiqué dans la manière dont on pourrait partager les témoignages. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Alors moi, je ne vois pas. Sachez qu'on a tout à fait conscience, on est vraiment au début de l'activité que nous allons devoir conduire et nourrir chacun, chacune d'entre nous de nos expériences. Bien évidemment, et ça s'est senti dans votre témoignage, on a dans les régions désormais des équipes qui sont formées d'une part à l'activité économique et d'autre part, je pense que l'ensemble des régions désormais ont adopté leur vision stratégique de leur action internationale. En tout cas, ça a été fait en Occitanie, mais je pense que c'est le cas de toutes et de tous. On est très conscient au sein de Cités Unies France des rythmes de mandats différents des uns et des autres et de la nécessité, par exemple, pour les communes et les intercommunalités de très prochainement, dans l'année qui vient, valoriser ce qui a pu être engagé et qui le sera peut-être de manière moins prégnante à partir de moitié 2025 en raison d'échéances qui se présenteront. Donc on a très conscience de cela. Il y a un premier travail de recensement de nos interlocuteurs sur le sujet, sur le plan économique et ce qui nous semble pertinent. Des exemples notamment dans les pays qui sont représentés au sein de Cités Unies France et sur lesquels on a davantage de contacts et de corpus pour serrer les interlocuteurs. Et puis peut-être dans chacune de vos collectivités, vous avez à l'évidence fait un travail sur l'identité de vos collectivités. Parce que la richesse de la France, c'est justement qu'on ait tous aussi ces identités singulières, et rattachées à des valeurs communes de la République, mais des identités singulières. Et c'est justement dans le choix des identités que vous souhaiteriez projeter à l'international que le travail de différenciation et donc de rayonnement et d'attractivité est peut-être le plus repérable. Et donc il y a peut-être un travail que nous allons pousser sur les identités qui peuvent être projetées peut-être plus favorablement à l'international et puis voir comment il peut y avoir des équipes de collectivités qui se forment entre les communes, les interco, bref, comme vous l'avez indiqué, que ce soit pour le réseau des villes Michelin, comme c'est pratiqué en Auvergne-Rhône-Alpes ou du reste en Occitanie, où des missions permettent, sur des sujets transversaux, d'accompagner le territoire dans sa globalité à l'international et sur des actions qui sont profitables pour tous. Nous, on a des communes, des intercommunalités qui nous interpellent parce qu'elles ont des opportunités de développement, soit de partenariat, soit d'attractivité pour faire venir une entreprise sur leur territoire, soit des choses qu'elles voudraient mettre en lumière qui existent et qui sont singulières sur leur territoire. Et ça passe parfois sur des sujets extrêmement précis, et c'est là que ça marche le mieux. Par exemple, on avait été saisi par les communes qui sont sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en région Occitanie. Le fait est qu'au Japon, il y a les chemins de Kumano-Kodo. Et nous avons du coup engagé tout à la fois des travaux de recherche scientifique sur ces chemins et tout un travail avec les tour opérateurs, les comités régionaux du tourisme, les offices de tourisme de ces communes ou des départements traversés par les chemins de Saint-Jacques pour travailler sur le rapport entre chemin spirituel et attractivité des territoires. C'était pas évident quand on a lancé notre stratégie que le sujet allait pouvoir se poser de manière assez efficiente. Mais ça permet d'irriguer beaucoup de territoires, d'irriguer aussi de l'activité en termes d'hôtellerie et de restauration, de favoriser aussi le travail de nos guides touristiques. Bref, ça génère de l'action économique et puis des liens humains entre les femmes et les hommes qui vont sur le chemin de Compostelle et qui maintenant ont pour projet, pour une partie d'entre eux, de faire les chemins de Kumano-Kodo. Donc ces relations entre les peuples et qui permettent de lier des enjeux de nos collectivités, parfois vont sur des sujets tout à fait précis, et ces sujets précis peuvent souvent aussi être accompagnés par des dispositifs de financement, que ce soit ceux des régions, des dispositifs également de financement européens. Et il y a une partie d'activité d'ailleurs du comité européen des régions, au sein duquel vous savez les territoires sont représentés, pour indiquer à la Commission européenne qu'il faut absolument flécher des financements à destination des collectivités territoriales pour qu'elles renforcent les dynamiques des pays entre eux, mais via les collectivités. Je crois que c'est un message qui se renforce, et on l'a entendu à l'ONU récemment. C'est un message que fait passer aussi de manière, je trouve, assez dynamique le maire de New York. Et c'est un message sur lequel, évidemment, à Cités Unies France, nous souhaiterons être au rendez-vous.
Merci, Madame Belfig. Alors, j'avoue que j'avais noté quelques mots en guise de conclusion et de synthèse, mais je trouve que vous l'avez fait bien mieux, certainement, que je n'aurais pu le faire. Non. Mais alors, très, très simplement, l'objectif de notre atelier était de commencer à identifier les sujets sur lesquels on peut travailler. Je trouve qu'il y a plein de portes qui ont été ouvertes et plein de sujets interconnectés parfois entre eux, d'autres moins, mais en tout cas sur lesquels on a beaucoup, à mon avis, à apprendre et à creuser. Moi, je retiens l'importance de travailler en complémentarité avec les différents niveaux de collectivité, tout en ayant bien conscience que les régions ont un rôle. Effectivement, ça a été dit pilote sur ce sujet-là, mais il y a des enjeux à travailler en complémentarité sur les sujets économiques et internationaux. Il y a des enjeux à prendre toute la mesure de cette dimension économique dans tout ce qu'elle peut apporter en termes de ramifications avec d'autres sujets. On a parlé de la culture, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de la question de la jeunesse, de la formation. Il y a plein de sujets qui s'y lient et il faudra en mesurer toute la portée, toute la richesse. La question qui a été soulevée, et je l'avais aussi abordée en tout petit mot d'introduction, cette question de la réciprocité, elle est fondamentale sur les questions de développement économique, d'attractivité en matière d'action internationale. Elle se pose d'autant plus souvent si on demande aux collectivités territoriales françaises de mettre une dimension économique dans leur action internationale, c'est aussi pour garantir une espèce de réciprocité dans cette relation et donc de renforcer la légitimité de la collectivité à agir à l'international. Donc ça, c'est bien sûr un sujet que l'on va retrouver, je pense, qui va traverser notre groupe de travail. Voilà. Après, j'ai un début de modélisation, mais je pense qu'il serait beaucoup trop tôt pour vous le partager sur ce que peuvent faire les collectivités à l'international. Ce sera un des chantiers de ce groupe de travail, effectivement, de commencer à identifier comment les collectivités déclinent leur action internationale, sachant qu'il y a certainement beaucoup plus de façons de faire que celles que j'ai là tout de suite en tête. Ce que je vous propose, c'est de rester complètement à votre écoute sur vos attentes par rapport à ce groupe de travail. Je sais qu'il y avait beaucoup d'inscrits, donc je sais qu'il y a un gros intérêt sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire les questions que vous vous posez, qu'elles soient très concrètes ou beaucoup plus politiques. N'hésitez pas à revenir vers nous, ça nous permettra aussi d'orienter la façon dont on conduira ce groupe de travail. Je vous remercie toutes et toutes, et puis je repasse peut-être le micro. Je remercie aussi les intervenants, parce que c'était un premier exercice, on ouvrait des portes. Et je repasse peut-être le dernier mot, si elle le souhaite, à Nadia Belfig.
Non, merci beaucoup, merci à tous les trois de vos témoignages. Merci à Aude d'avoir insisté sur l'économie sociale et solidaire. C'était votre rôle, mais c'est aussi tout à fait sa place. Et puis, à très bientôt à toutes et tous, et puis à votre disposition, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir un travail à fois très collaboratif et efficace. À très vite.